podcast.com. Essaye ça.
L'Express du 27 avril. L'air de rien, on se rapproche du mois de mai. Colin, il t'avait d'avoir moins de neige à Rouyn-Noranda. Comment ça va, Martin?
Ben, ça va bien, mais c'est drôle que tu parles de ça parce que la semaine passée, j'ai plugué le chum Steve Sauvé avec du monde au Témiscamingue parce que tu vois, la crue des eaux qui se déroule dans le coin Valleyfield, Vaudreuil, Soulanges, tout ça, est directement relié à la fonte des neiges au Témiscamingue.
Ah oui, capoté, pour vrai, pareil. C'est, ouais, les affluents de
Saint-Saul. Exactement. Fait que, mais là, écoute, ça m'a fait penser à ça, là, mais oui, ben, au Témis, c'est déjà réglé. C'est juste à Rouyn que ça va être plus long.
Ouais, ben Rouyn, c'est parce que l'hiver dure un an. Fait que là, on va tomber dans ça. La période la moins neigeuse de l'hiver annuel.
11 mois et 2 semaines, genre.
Oui, puis d'ailleurs, si vous allez... en Abitibi, à Rouyn-Noranda, que vous voulez faire une dégustation de neige, ben faites-le pas.
Yeah.
Oui, effectivement. Parce que le ministère de l'Environnement a ouvert une enquête pénale sur la fonderie Horn, encore, pour autre chose. Cette fois-ci, c'est pas les rejets d'arsenic dans l'air, ni ce qui est dans la poussière, ni toutes les cochonneries qu'on respire là-bas ou qu'on touche dans le sable. Mais là, il y aurait eu des concentrés de cuivre, parce qu'on sait que la fonderie Horn, ce qu'ils font, c'est qu'ils font fondre des vieux ordinateurs puis des cochonneries comme ça pour récupérer les métaux précieux, puis surtout le cuivre. Ils font des anodes de cuivre. Mais ça, ces opérations-là, ça produit des poussières de cuivre. Puis d'autres, ben, apparemment, il a ça dehors, en tas. Et le vent, quand il décide de passer un petit peu vite, il en ramasse une partie. Puis là, il en a foutu un peu partout, notamment dans le quartier Notre-Dame, celui qu'on a prévu de démolir là, pour que la fonderie puisse continuer à
empoisonner. Ah ouais, mais c'est pas grave, on va tout démolir. C'est pas grave.
Ah, c'est ça, tu sais, on peut empoisonner en masse. Mais sauf que c'est allé plus loin que ça, là. En fait, ça date du 7 mars dernier où il y avait eu des gros vents. Puis là, le concentré de cuivre qui était entreposé dehors sur le site de la fonderie Horn. Mettez une bâche dessus. Là, faites de quoi, là? Mais bon, je pense qu'ils s'en foutent. Je pense que la pollution puis la santé des résidents de Rouyn-Noranda, c'est le dernier souci de Glencore, là, qui est une compagnie qui vient, je sais plus d'où, je suis du Brésil, en tout cas d'un autre pays, puis ils s'en sacent de ce qu'ils font ici.
C'est pas Suisse?
Ah oui, même, ça me dit quelque chose, ouais, Suisse. En tout cas, ils s'en sacent d'empoisonner les gens de Rouyn-Noranda. Ce qui compte, évidemment, c'est l'argent. Et ils savent très bien que le gouvernement du Québec, pour eux aussi, ce qui compte, c'est l'argent, dont l'argent que la fonderie Horn leur fait récolter, notamment par des impôts, des taxes, des redevances, et aussi parce qu'ils donnent des bons salaires aux employés. Ben, eux autres aussi, ils payent des impôts, tout ça. Fait que l'argent, c'est ce qui compte, hein, aujourd'hui. Puis, tu sais, on pointe souvent les Américains du doigt. Ouais, juste l'argent, eux autres. Ben, nous autres aussi. C'est la même affaire ici. La preuve, c'est que ça fait au moins 50 ans que c'est très connu que la fonderie Horn empoisonne tout le monde. Puis tout le monde laisse ça aller parce que c'est de l'argent. Donc... dans le ces résidus miniers là, ces résidus de cuivre là, étaient entreposés dans le parc à résidus Horn 5. Ils sont, puis bon, le vent les a emportés, ça a revolé partout, ça a revolé sur le lac Pelletier, ça a revolé dans la ville de Rouyn-Noranda, et pas juste le quartier de Notre-Dame, assez loin aussi, dans plusieurs parcs. Le lac Osisko, qui est déjà une espèce de soupe toxique dans laquelle, étonnamment, des animaux réussissent à vivre, dont des poissons à 3 yeux, des canards avec 2 têtes, puis rien pour faire caca. Puis bon, que j'ai exagère un peu, mais effectivement, il y a un petit peu de vie dans ce lac-là, mais le fond... Tu sais, c'est le genre de lac où tu peux pas mettre un bateau à moteur de peur de brasser le fond. Mais là, on a rajouté une petite couche de bouette, c'est-à-dire de résidus de cuivre. Puis là, ben... Normalement, ce qui arrive dans le cas d'un rejet accidentel dans une industrie comme ça, c'est qu'il faut, il faut aviser le gouvernement tout de suite. Là. Le ministère de l'Environnement, il faut leur dire tout de suite. Et il faut procéder au ramassage. Il faut ramasser la majeure partie de ces substances-là. Et puis, ça a été long avant qu'ils se décident de commencer à ramasser ça. Et encore plus long avant qu'ils se décident de le déclarer, d'en parler au ministère de l'Environnement. Là, ils disent, sur des strates de neige, ça se ramassait assez bien. En fait, dans des tas de neige, ça fait comme des strates. Quand ça tombe, il neige une autre strate de cuivre, une strate de neige, une strate de cuivre. Ils ont récupéré de la neige souillée un peu dans le quartier Notre-Dame à Noranda, notamment dans les parcs, tout ça. Puis ils disent... ça a pris moins une semaine avant qu'ils commencent à penser à le ramasser, là, tu sais. Pourtant, c'est...
Il faut qu'ils décontaminent sûrement aussi. C'est pas juste de dire, bon, enlever ça de là, je présume. Là.
Ben, s'ils l'enlèvent, en fait, c'est pas mal ça, la décontamination, qu'on peut faire. Quand il y a de la neige, ça se fait bien. Tu sais, la poussière de cuivre tombe sur la neige, tu enlèves la neige, tu vas la faire fondre dans une place, là, dans un des bassins de décantation de je sais pas quoi, dans ce qui est communément appelé à Rouyn-Noranda le chemin de la Dompe, où il y a aussi un terrain de golf. Il y a beaucoup de bassins là où
attends un peu, Frank. Là, ça, c'est capoté. Là. Ça, c'est vraiment capoté. Là. Moi, je suis golfeur. J'ai habité à Rouyn-Noranda. Okay? Mm-hmm. Il y a deux terrains de golf à Rouyn-Noranda. Il y a le Noranda et il y a le Dallaire. Okay? Le Dallaire, c'est une institution. Okay? Ouais. À Rouyn-Noranda, là, c'est une institution. Mais l'autre golf...
C'est une infection.
C'est un total et absolu non-sens comme terrain de golf. Puis là, je comprends là, que, regarde, on n'est pas en Écosse, puis on n'est pas à l'île du Prince-Édouard, puis que on n'a pas accès à des décors nécessairement si bucoliques que ça à Rouyn-Noranda. Là. Mais écoute, ça n'a aucune espèce de sens. Bon, c'est correct, là, ça peut arriver un trou, là, tu sais, c'est un trou, c'est un parcours que tu joues deux fois là, pour faire 18 trous. Mm-hmm. Là. Mais ça n'a pas. Tu sais. Littéralement, là, tu sais, t'es sur un tee-off, là, à un moment donné, là, pis tu regardes, pis y a un petit trou d'eau, là, en arrière, ou un petit cric, ou tu sais, whatever.
L'eau
là.
Est jaune.
L'eau est orange.
Oui, orange, c'est ça.
C'est hallucinant. Là, pis là, tout le monde est là, pis tu sais, tu joues au golf, tu sais, comme si de rien n'était. Pis c'est pas à faute du terrain de golf, là. Je suis pas en train de bâcher le terrain de golf, là. Mais je comprends rien. Je ne comprends rien.
C'est qu'il y a des espèces de bassins de décantation. Je ne sais pas exactement si ça s'appelle comme ça ou comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Mais ce sont des espèces de bassins qui sont rectangulaires, très grands, dans lesquels on met de... Attends, il y a un terme technique, là, je l'ai... De l'eau de marde. Et cette eau de marde-là, j'imagine, en s'évaporant, provoque une sédimentation qui est de couleur, orange, mais pas orange, pas un beau orange. Orange toxique.
Rouille. Orange rouille.
Orange Donald Trump, là, tu sais. Sauf autour de ses yeux où c'est blanc parce qu'il met ses petites cuillères, ses yeux, quand c'est bronzé. Mais ouais, c'est ça. Ben, pire que Trump. Orange Bavaria, OK? Fait que t'as ces... hein, c'est pas mal, ça. T'as pas mal ces affaires-là, puis... évidemment, ben écoute, il en coule un petit peu. Fait que tu sais, les ruisseaux, c'est pas le genre de petite place où ce que tu dis, tu laisses ton chien s'abreuver dans les ruisseaux, là. C'est orange, ah puis ça bouille, puis ça...
Tu sais, quelqu'un que... Moi, bon, là, je suis quand même un golfeur décent, là. En tout cas, je l'étais à cette époque-là. Là. Mais tu sais, mettons, là, je perdrais une balle dans ça. Moi, j'en ramasse pas, là. Fuck off, là. Quand même, c'est une Pro V1 à 5$ la balle, je m'en sac, là, je la laisse là.
Je pas ça.
De toute façon, tu joues pas de la Pro V quand tu joues sur terrain.
Non, c'est ça. Ben, écoute, de toute façon, j'ai jamais aimé les Pro V, moi.
c'est un V, Frank.
C'est ce qu'on appelle une blague. Oui. Apôtre 420, c'est de la rouille, de l'oxydation. Oui, genre, c'est probablement juste ça, mais. C'est dégueulasse, c'est de voir de cet eau-là orange qui a de l'air de
bouillir. Ben non, puis là, en même temps, c'est juste de la rouille, c'est juste de l'oxydation. Ça vient d'où, tu penses?
Ben
depuis
non,
quand l'eau, ça rouille, calice?
Mais tu sais, de la rouille en soi, c'est pas quelque chose de toxique. Là. Sinon, les falaises des îles de la Madeleine, on pourrait pas y toucher, on pourrait pas aller se baigner là. Mais... Tu sais, c'est pas de la belle rouille comme aux îles de la Madeleine, on va le dire de même. Tu sais, c'est pas des belles falaises rouges. Là, c'est de l'eau, puis c'est comme orange. Fait que moi, je soupçonne que c'est pas juste de l'oxydation. C'est pas juste du fer rouillé, là, tu sais, c'est... Mais bon, je connais rien là-dedans. Mais c'est dégueulasse, puis faites pas boire votre chien là, puis laissez faire la balle de golf, fût-elle 5$. Mais tu sais, c'est assez ridicule. Mais bon, c'est ça. Là c'est des poussières de cuivre là, qui nous inquiètent dans ce dossier-là. Et puis là, ben là, attention, il y a eu l'enquête est ouverte, mais là, à date, il y aurait une grosse amende. 10 000$.
Oh mon Dieu, c'est effrayant. Ils vont couper 200 jobs.
Ils font des milliards, 10 000$. OK, fait que c'est juste ça que ça coûte s'en crisser puis laisser les poussières de cuivre voler dans l'atmosphère puis tomber dans dans les lacs puis sur les terrains des gens où jouent les enfants. On va le payer, le 10 000. Mais apparemment, tu sais, en fait, le temps que ça a pris pour ramasser ça, déclarer ça, puis mettre les équipes en place de ramassage, écoute, c'est des piles, là, des pépines, là, c'est pas quelque chose qui demande une logistique à pu finir, là, mais c'est ça qu'on reproche là, surtout à Glencore, puis c'est pour ça que c'est aussi parce qu'ils n'ont pas avisé le ministère dans des temps raisonnables. Donc c'est là-dessus qu'il va y avoir une enquête qui donnera rien, parce qu'on le sait qu'ils veulent rien faire, là, tu sais, ils sont rendus à détruire la ville pour pouvoir rien faire et permettre à cette compagnie-là de polluer. Oui.
Regarde, c'est simple, là, OK? Glencore, c'est une compagnie qui a été fondée en 1974, OK, qui est tradée publiquement, là, qui est cotée en bourse. Ça a environ 135 000 employés, ça date de 2022, OK? Et le chiffre d'affaires de 2022, t'es assis, là, c'est 256 milliards. Pas des millions, là. Des milliards, OK? La capitalisation boursière est à 38. Le chiffre d'affaires, ça, je l'ai dit, puis le résultat net pour 2022. Donc, ce qui reste, c'est 17,3 milliards.
Puis quand
fait que votre 10 000 piastres, là, c'est 25 cents.
Ah, même moins que ça, là, tu sais, c'est point 25 cents. Ouais, tu sais, quand tu te donnes même pas la peine de compter les centaines de milliers de dollars, les dizaines de milliers de dollars de ton chiffre d'affaires quand tu le dévoiles, quand c'est en milliards, là, les 10 000, ils comptent pas, là, tu sais, c'est comme non, juste c'est de la rien, poussière.
Là, mais c'est parce qu'un 25 cents, au moins, ça existe, là, tu sais, c'est 5 cents dans tes poches, hein, ta gueule.
Non, c'est ça.
C'est quoi, ça me fait penser? Ça me fait penser à un boss qui m'avait collé dans son bureau parce que j'étais arrivé une minute en retard. Je gagnais 14 piastres dans ce temps-là. J'avais mis un 25 cents. Je vous niaise pas, là. J'avais mis un 25 cents sur son bureau. Je dis, tiens, je te dois rien.
Tu avais volé 25 cents de temps.
Oui, parce que c'est exactement ça qu'il m'a dit. Il a dit, arrivé en retard, c'est comme voler. Fait que j'ai dit, tiens, on se doit rien. Hey, tabarnak, tu me niaises. Écoute, là. Puis je suis pas un gars en retard. Fait que, regarde, c'est arrivé une fois, là. Je suis arrivé en retard, tu sais. Puis littéralement une minute, là. Attends, on se doit plus rien. On est quitte.
Ah, il y en a comme ça, hein, des petits boss, puis avoir du petit power comme ça, puis qui en abusent, c'est pas trop long. Mais bon, c'est ça. Ce 10 000-là, j'imagine que la secrétaire va pogner un chèque. Tiens. C'est risible, évidemment. Là. Mais
ça n'a pas d'allure. C'est même pas de mesure. C'est même pas. Tu sais, ça mérite même pas. Ça sera même pas à l'heure du jour d'un meeting quelque part, là.
De aucun meeting, là, tu sais, rien, là, tu sais, même le concierge de cette compagnie-là aurait pu le payer, là, tu sais. Mais bon, c'est ça. Écoute, ça vient, en fait, avec l'espèce d'avis de non-conformité, là. C'est une formalité de leur charger 10 000 piastres, mais évidemment, ça veut absolument rien dire. Le pire, c'est que, je sais pas, moi, un petit casse-croûte qui déverserait, tu sais, échapperait son bac d'huile à friture dans le gazon aurait peut-être la même sanction, là. Ce qui montre que les sanctions n'ont absolument rien de juste. Puis quand t'es une petite business, 10 000 piastres, ça peut faire très mal. Puis quand t'es une méga minière multinationale qui fait des milliards, ben t'as la même punition que l'autre. Fait que, tu sais, y a pas d'équité là-dedans, là. C'est le même montant. mais c'est pas équitable parce qu'il y en a un qui va être pénalisé puis l'autre qui s'en rend même pas compte. Il y a personne qui va s'en rendre compte qui manque 10 000 piastres.
Dans le cas de Glencore, particulièrement de la fonderie, je peux quand même comprendre... Ça va ouvrir un débat, là, puis je sais pas si on va avoir le temps, mais je comprends un peu la raison de l'existence d'une fonderie. Je suis capable de comprendre qu'on veut extraire le cuivre, parce que le cuivre, ça intervient dans un paquet d'affaires. Mmh. Ça a un paquet d'applications. Moi, je vais te le dire, ce que je comprends pas. Ce que je comprends pas, là, c'est les mines d'or. Je comprends pas ça. Mettons, là, demain, Frank, là. Là, je comprends, là, qu'il y a certains procédés pour lesquels c'est important de plaquer des affaires, tu sais, puis ça prend des minéraux particuliers, puis tout. Ça, ça va, là, je comprends, là. OK? Mais toute la notion de bijoux, de toutes ces affaires-là, là, tu sais, demain, là, sans joke, là, demain, là, il n'y a plus d'or. Qu'est-ce que ça a réellement comme conséquence, pour vrai, là?
Ou demain, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de commerce. Ça vaut plus rien.
Puis j'ai pas parlé d'argent. Je parle du le métal. Là. J'ai pas parlé d'argent, j'ai pas parlé de cuivre, de zinc. Non. Je parle de l'or seulement. Ah
oui. Ben, tu sais, à part sa conductivité puis certaines propriétés, tu sais, c'est. Mais moi, ça a toujours été un mystère pour moi, là, les gens qui payent cher pour des bijoux, là. Des perles, des agates, des roches, des pierres précieuses. Moi, quand je vois quelqu'un s'acheter quelque chose, une bague avec des pierres précieuses, tu t'as payé 4 000 $ pour une...
Ben, regarde, parce que là, il y a Sergeant Fungus qui dit dans le chat, pas d'or, pas d'ordi. OK, je comprends, là. Mais là, t'es en train de me dire que ça serait pas remplaçable, ça, là. On pourrait pas faire autrement, là, tu sais, parce qu'on s'entend que là, c'est comme un le besoin crée l'organe, là. Tu vois, ah, ben là, non, l'or, on a besoin pour faire ABC qui n'est pas des bijoux, fait qu'on va continuer les bijoux aussi. Moi, c'est ça mon point, là. Je suis pas en train de dire que l'or a aucune utilité autre que des bijoux, là. Non. Les métaux précieux, ou je le sais aussi que c'est un contrepoids monétaire aussi, là. Je comprends
c'est
ça, là. Je comprends la
à
gang.
Cause de ça. Mais en fait, tant
ben
que.
Ben oui, je comprends, là.
Tant que les gens vont vouloir afficher leur richesse. Montrer aux autres qui sont riches, ces affaires-là vont se vendre. Tu sais, comme les pierres précieuses, des diamants, je comprends, là, une foreuse au diamant, couper de la vitre, ouais, mais sinon, ça sert à fuck all, un diamant, là, les autres pierres précieuses, là, la plupart, servent à rien, mais à rien, à part que coûter cher, puis montrer aux gens que t'as assez d'argent pour mettre des roches qui coûtent cher sur tes doigts, là. Tu sais, moi, je comprends pas, les bijoux que je porte, là, c'est bien simple, là, des boucles d'oreilles en métal noir, là. Tu sais,
Regarde, attends un peu, Frank, regarde, comme là, j'ai quasiment tous les composants électroniques contiennent une petite quantité d'or. C'est une valeur refuge, j'en ai parlé tantôt.
Ouais.
Je comprends tout ça, OK? Fait que là, moi, je vais vous poser la question suivante. Fait que ça mérite-tu qu'on scrape des villages comme Malartic? C'est-tu envisageable qu'éventuellement, tu sais, il y aurait l'or, c'est important, fait qu'on se penche pas là-dessus, pis oh ouais, puis on creuse, puis on continue. Moi, je fais juste poser la question, ouais. Là. Je suis pas un spécialiste comme certains d'entre vous peuvent peut-être l'être parce que vous connaissez plus ça que moi, les composantes électroniques. Tout, je comprends que l'exploitation de l'or mondial ne concerne pas que les Jewel. Je comprends ça, là. Mais t'as à boire que les mines, tu sais, quand ça s'installe à quelque part, je sais pas si vous avez déjà, moi je l'ai pas vécu particulièrement parce que j'habitais pas à Malartic ou à La Sarre ou tu sais les endroits où il y a des minières, mais tu sais ils ont déménagé des quartiers de monde là, ils mettaient leurs maisons sur des trucks pour les tasser 1 kilomètre plus loin là. Oui, j'ai un oncle, moi, qui travaillait là-dessus, là. Il refaisait des solages. OK, la maison 22, ben là, t'as pas un, tu l'amènes ici, on l'assit ici, on réinstalle ça.
Ouais, ils ont changé
puis
la
personne,
elle
ne collectait pas une scène, là. Elle payait pas un sou, là.
Ceux qui ont été expropriés ont eu des compensations, là. Puis il y en a eu beaucoup qui ont fait une grosse passe de cash, là. Du monde qui avait des vieilles bicoques qui valaient.
Des chiottes, ben oui.
Ça, 50, 60 000. Ils se les ont fait acheter 100 puis 200 000, là. Tu sais. Puis ceux qui chialaient un peu plus se sont fait rajouter des 100 000 piastres. Bon, OK, tu veux. Moi, ma maison ancestrale, là, j'étais élevé dedans, mes parents, mes grands-parents. Ouais, OK. Puis si on rajoute 200 000 piastres, tu as encore ta maison ancestrale. Ouais, non, 200 000, moi, c'est bon. Fait que ceux qui ont chialé un peu ont eu beaucoup plus que ceux qui ont accepté au début. Eux autres, ceux qui sont fait fourrer, c'est ceux qui ont dit oui tout de suite. Eux autres, ils ont eu la valeur de la maison, puis on la déménage, puis c'est tout. Ceux qui ont résisté un peu à la Canadian Malartic, Eux autres, ils ont eu des offres très avantageuses, puis ceux qui sont entêtés ont eu des centaines de milliers de dollars de plus, sauf un qui a poussé le bouchon un peu trop loin, qui s'appelle Ken Massé, on s'en rappelle. Moi, je suis arrivé en Abitibi pendant cet épisode-là. Et
Tout le monde en parle même à l'époque.
C'est vrai, ouais? Je me rappelle pas. Mais je suis arrivé, puis j'ai commencé ma job d'animateur là-bas avec la semaine que c'était Ken Massé. Puis là, il se tenait debout devant la minière, puis finalement, il n'y a rien eu pour sa maudite cabane, parce que il restait juste lui à tasser, puis tu t'annules pas une mine au complet pour une maison. Fait que finalement, je pense qu'il y a eu juste la valeur de sa maison, qui était une bicoque là, qui valait quelque chose comme 60 000. Lui, il s'est vraiment fait fourrer, mais il s'est entêté un petit peu trop longtemps. Mais...
je me trompe, là, je veux juste rigueur calice, mais non, il n'y a pas... J'étais sûr qu'il avait fait... tout le monde en parle, mais c'est pas le cas. Je me trompe. Fait que c'était peut-être une autre émission, mais ça avait fait le tour du Québec. Là. Il y avait bien du monde qui savait c'était qui Ken Massé. C'était le dernier Gaulois là, qui voulait pas se faire expatrier.
On l'a reçu une couple de fois là, à l'émission dans le temps. Et puis, mais c'est ça. L'art, tant qu'on va y donner, outre sa valeur industrielle, là, c'est très conducteur, c'est inaltérable, je sais pas quoi, puis ça recouvre bien une pyramide de...
Oui, je suis pas en train de dire scraper l'or puis on s'en sert plus pour farm ça. Mais je pose des questions. C'est-tu quelque chose qu'on pourrait... C'est quoi la proportion d'utilisation de ce matériel-là pour des trucs utiles qui coûtent pas 780 000 piastres l'once versus les jewels puis les chaînes de pimp puis comme dit Kate Vézina a dit, c'est de l'or l'orfèvrerie, aucun doute là-dessus, c'est de l'or l'orfèvrerie au même titre que la sculpture ou la peinture, je suis d'accord. Mais là, je parle de bijoux faits à la main et pas d'une grosse chaîne de pimp.
Mais tu sais, c'est une valeur un peu imaginaire, comme les pierres précieuses, comme les diamants, là, si on s'en servait juste pour des fins industrielles, ça coûterait bien moins cher. Là.
C'est ça.
C'est une valeur imaginaire qu'on donne à ça, tu sais, des rubis, des émeraudes. Ça vaut, c'est des roches, calice, mais ça sert à étaler sa richesse, montrer sa richesse, puis tant que les gens vont vouloir faire ça, ben ça va avoir une grosse valeur, puis ça vaudra la peine de déplacer des villages au complet. Puis j'ai passé récemment à l'article, le trou là, il est plus gros que la ville, tu sais, c'est hallucinant comment c'est. Ça fait une couple d'années,
t'es pas déjà passé allé là. T'es-tu déjà allé dans le pit? Moi, je suis déjà allé en bas là, c'est complètement en bas là.
Quand ça?
En 2011-12-ish. Là, 10 ans à peu près.
OK, ça commençait, là. Ça a commencé.
Non, j'étais allé quand il y a le remblai. Le remblai était fait dans ce temps-là. Là.
Mais l'article...
Le remblai à sortie de la ville, il était fait, là. Fait que c'était fucking profond. Là.
OK, ouais. il me semble que c'était que les expropriations, c'était genre en 2000, en 2010-2011. Parce que c'est
bon, ben c'est 2013 d'abord.
OK.
Tu
serais dépaysé, tu reconnaîtrais pas la place si tu y retournais là. Parce que maintenant, c'est plus un pit, c'est un pays, là. Tu sais, c'est hallucinant comment ça a grossi. Puis Malartic est maintenant entouré d'une... pas d'un remblai, d'une chaîne de montagnes, là, c'est fou, tout ce qu'ils ont infiltré dans les 10 dernières années, c'est hallucinant.
Dans les dernières fois que je suis allé, parce que t'as pas le choix de passer par le Québec, là, quand tu y vas en autobus, puis je me rappelle d'avoir vu ça, mais le fameux remblai, là, quand t'arrives du parc La Vérendrye, là, c'était là, à gauche, là, quand t'arrives dans la ville, c'était là. Puis moi, je vendais à cette époque-là, je travaillais pour une compagnie qui fait des sièges à suspension hydraulique, pneumatique, excuse. Puis, écoute, il fallait que j'aille passer du temps avec les gars d'un 240 tonnes, les gars puis les filles. Il y a des filles qui font ça aussi. Tu sais, un 240 tonnes, là, c'est les pneus, avec les véhicules avec les pneus qui sont quatre fois à haut comme toi. Il n'y a pas de windshield là-dessus, c'est juste des TV.
Oui.
Si tu regardes des TV quand tu conduis, c'est capoté. Là.
Mais c'est ça, Frank. À ça, c'est plus en rentrant, là. C'est comme partout. Là.
Ouais, nos wikistes confirment, c'est à peu près 12% pour l'électronique, 10% pour les monnaies et j'imagine les lingots et tout
les
ça. La balance, c'est pour des jewels. Fait que c'est ça ma prétention. Je ne sais pas le pourcentage. Je garocherai pas des chiffres qui sortent de ma 17e lettre d'alphabet. Sauf que moi, j'ai... Ben voilà, puis le principe de valeur refuge, puis tout ça aussi, je le comprends. Là, c'est comme quelqu'un disait, une pièce d'argent va toujours te servir à t'acheter un habit. T'sais. Fait que en 1930, si tu avais une pièce d'argent, tu peux t'acheter un habit avec ça. Pour aujourd'hui aussi, genre, là, j'extrapole, je fais des analogies, les les spécialistes en unité monétaire, là, envoyez-moi pas en prison. Là. C'est une analogie.
Mais tout bon. Ça est basé sur une valeur imaginaire, artificielle, qu'on donne à ça parce qu'on en fait des bijoux. C'est pareil, pareil pour ne pas dire pire avec les pierres précieuses parce que c'est juste des calices de roche. Là. Je veux dire, y a-t-il une utilité à une émeraude ou à un rubis? Là? Je sais pas. Là. Une perle,
c'est beau.
On fait quelque chose avec une perle à part juste se décorer pour montrer qu'on... Je comprends... Je méprise pas ceux qui aiment ça, là, c'est correct, là. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment précieux dans le sens que ça n'a pas d'utilité concrète. C'est juste joli, puis on paie pour le prestige que ça apporte, là, t'sais, puis la beauté que ça peut avoir. Mais t'sais, c'est une valeur un peu imaginaire, un peu comme une grande partie de l'or. Si on s'en servait juste à des fins industrielles et pratiques, ça coûterait bien moins cher de l'or.
Ben, c'est ça le point depuis le début, tu sais.
Mais ça serait pas une valeur refuge, ça serait pas, tu sais, contrairement à l'argent, tu sais, qui peut fluctuer beaucoup en valeur. Quoique, ça fluctue, la valeur de l'or, ça ouvre et ça ferme des mines et ça les réouvre, là, tu sais. Notamment en Abitibi, par la Boutin, il y a des mines qui étaient inactives. Puis la valeur de l'or avait grimpé en flèche au début des années 2010. Ce qui avait fait qu'il avait reparti, il avait réouvert des exploitations, il avait réouvert des mines, puis là, il y avait de l'argent à faire. Des mineurs qui avaient été au chômage parce que l'or ne valait plus assez pour... parce que aussi, c'est pas comme dans les films, là, tu sais, tu trouves un filon d'or, puis là, tu ramasses de l'or à pelleter. Non, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de roches et de poussière, puis on transforme ça pour récupérer la poussière d'or qui, après ça, va être raffinée, rassemblée, tout ça, puis tout ce qu'on appelle la moque, les minéraux sans valeur, ben on met ça autour du pit puis on fait une chaîne de montagne. Maintenant, c'est comme tu dis, c'est plus un remblai quand t'arrives, là. C'est une chaîne de montagne à la grandeur de la ville puis elle est haute, là. Ça a l'air naturel. On dirait vraiment des montagnes, là. Parce que, tu sais, ce trou-là qui est... D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est encore... C'est pas... Quand ça a ouvert, on prévoyait la plus grande mine à ciel ouvert du Canada. Puis là, je pense que c'est encore une des mines d'or les plus grandes à ciel ouvert, les plus imposantes au Canada. Puis quand ils auront fini d'exploiter ça, ils vont juste sacrer leur camp, puis il y aura un gros trou béant, comme ils ont fait à Val-d'Or. À Val-d'Or, les promoteurs de la mine, lorsqu'ils voulaient l'ouvrir, ils disaient, là, on va exploiter pendant tant d'années, puis après ça, ben, on va péter une vendeau, ça va faire un beau lac, puis là, on montrait des photos avec des marinas, des voiliers, des belles filles, tout ça. Puis finalement, quand ils ont fini d'exploiter ça, ils ont juste sacré leur camp. Ils ont pas Il n'y a pas d'eau, là. C'est pas un lac, il n'y a pas de marina. C'est juste un gros trou béant, dégueulasse, un furoncle dans le. Un cratère dans le paysage abitibien parce qu'il n'y avait plus d'argent à faire là. C'est juste l'argent qui compte. Mais pour en revenir à notre dossier, pour ce qui est du cuivre, ça se serait bien ramassé dans la neige, mais là, moins il y a de neige, moins ça se ramasse parce que tu peux pas juste comme prendre des strates de neige, l'envoyer faire fondre ailleurs, puis que le cuivre se retrouve, sédimente dans le fond. Mais une fois que c'est dans la terre, c'est là. Puis ils vont pas enlever 6 pouces de terre partout. Fait que c'est là, c'est tout. C'est là, c'est tout. Dans le lac, c'est là, c'est tout. Puis dans le lac Pelletier, Osisko, ça va rester là. Puis il y a rien à faire. Puis ça va coûter un petit 10 000 piastres. Mais là, on dit que là, bon, il y a une enquête. Puis ils prennent ça très au sérieux. Mais historiquement, on sait très bien que la fonderie s'en tire toujours à bon compte et que le gouvernement, s'il n'est pas impuissant, en tout cas, il est inactif. Il fait preuve d'inertie à chaque scandale comme ça. Pourquoi? Ben, c'est de l'argent. Puis, on pourrait aller faire une petite pause, puis j'ai un autre petit dossier rapide. En fait, une espèce de suivi sur toutes ces histoires-là d'inconduite sexuelle dans les écoles, les profs qui marient et font des enfants à leurs étudiantes. Là. Le ministère de l'Éducation, avec Bernard Drainville, avait trouvé une solution incroyable. On en parle après la pause.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire chambre froide.
Rire et facepalm me garantit.
J'aurai le truc.
Allô? C'est Vado. Pour dépenser tes bits, cheer! Avec le nombre que tu veux après. Cheer, c'est C-H-E-E-R. C-H-E-E-R. Une bite, c'est une scène. Fait cheer, c'est... C'est comme donner une grosse pièce à la gang de tout ce qui TV. Bye bye!
C'est avec les pièces qu'on fait, qu'on achète de l'or, puis qu'on va pouvoir finir par recouvrir nos pyramides, hein, qui s'en viennent, tu sais, que dont la construction avance. Pas du tout. OK.
Frank, avant, il n'y a personne ici qui est en train de dire, il y a quelqu'un qui mentionne, je pensais d'aller faire un tour dans cette région-là pour aller visiter puis tout, mais là, vous me faites déchanter. Ça n'a pas rapport, là, allez-y, là, il y a des choses extraordinaires là, en Abitibi-Témiscamingue.
Puis des industries, on fait juste parler partout, de,
on fait juste parler d'une réalité, c'est les minières, puis c'est un... j'ai envie presque de dire, et c'est un euphémisme, c'est le poumon économique de la région. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des beaux lacs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des beaux... des belles pourvoiries, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un terreau culturel hyper fertile. C'est juste que les mines, moi, je considère que à cause de leur fonction, pour certaines, ben c'est une tâche à la région. Mais le problème, c'est que ça la fait vivre. Mais ça veut pas dire que c'est pas beau. Là,
au les industries, il y en a partout. Là, même les endroits les plus beaux de la province, je parle souvent des îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, c'est magnifique, c'est bucolique, c'est parfait. C'est un archipel d'îles qui émerge de l'océan sur des dômes de sel. Mais l'électricité là-bas, ben ils font ça avec du diesel, avec du gaz. Ils font brûler des carburants fossiles pour faire de l'électricité. Il y a des tâches industrielles partout, y compris dans les plus beaux coins. Puis l'usine qui fait de l'électricité aux îles de la Madeleine, c'est pas joli. Là. Ça ressemble à la pochette de Pink Floyd Animals, là, avec les quatre grosses cheminées. Juste faire rapidement là-dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'il n'y a pas grand-chose de fait en réaction avec les... attends, faut que je dise comme il faut. Le ministre Drainville et le ministère de l'Éducation ont réagi en réaction, pas aux inconduites sexuelles et violences sexuelles et exploitation, tout ça, dans le système d'éducation. Ils ont réagi aux reportages de TV qui les ont dénoncés. Parce que tant que c'était pas à TV, c'était pas un problème important, là. Mais ça s'est ramassé à TV. Ça s'est ramassé dans les journaux. Fait que là, c'est devenu urgent de faire quelque chose pour empêcher que des profs fassent des enfants et marient leurs élèves et vendent leur corps... à titre de prostituée, puis des affaires de même. Là, une fois que c'est dans les nouvelles, il faut faire quelque chose d'utile, quelque chose qui va régler le problème pour de bon, parce que le ministre Drainville, il est tanné, puis il aime pas ça non plus, être éclaboussé par des histoires comme ça pendant qu'il est en poste. Ben écoute, ils ont mis une ligne sur pied, une ligne téléphonique qui... Attends, je vais aller chercher le nom, là, quoique c'est pas important, là, je vous dis, perdez pas votre temps à appeler là. Le 1-833 dénonce... d'habitude, des lignes comme ça, tu sais, pour les victimes, des choses comme ça, t'appelles, puis quelqu'un te répond, puis là, tu peux soit te confier, t'es pas obligé de te nommer, tu peux rester dans l'anonymat, te confier, faire une plainte, dénoncer, je sais pas, un professeur qui fait des choses pas correctes, une situation inacceptable, tu peux, tu sais, demander de l'aide pour en tant que victime, pour avoir des ressources... Sauf que si t'appelles à 1-833 dénonce, il n'y a personne qui répond. Tu tombes sur un répondeur qui te dit de t'identifier, puis laisser un message en boîte vocale, puis ton numéro de téléphone, puis attendre qu'on te rappelle. Ça sert à rien. À absolument rien. Fait que si t'es en panique, il vient de t'arriver quelque chose, ton prof vient de faire quelque chose de pas correct, d'abuser de toi, t'appelles là, boîte vocale. Ça sert absolument à rien. Fait que c'est encore une fausse solution pour faire semblant qu'on s'occupe du problème. Là. Évidemment, il y a un message enregistré. Et le message enregistré te dit que finalement, tu n'aurais pas dû appeler là. On dit, pour faire un signalement concernant une victime d'âge mineur, adressez-vous dès que possible au bureau de la DPJ. Je pense que tout le monde connaissait déjà la DPJ. On n'avait pas besoin d'une nouvelle ligne pour nous dire que la DPJ existe. Puis d'ailleurs, on donne même pas les coordonnées de la DPJ, on donne pas de numéro de téléphone, de courrier, rien, là. C'est arrivé de quoi? Appelle la DPJ. Je rappelle que la ligne s'appelle 1-833 dénonce, là. T'appelles là pour dénoncer, pis écoute, faut t'appeler la DPJ. Ah, pis s'il y a de quoi d'urgent, là, 911. C'est ça que ça dit!
Il aurait dû mettre ça sur Snapchat. Là, il y en aurait eu.
Ça serait sûrement mieux! Tu sais, c'est... Fait que dans le fond, quand t'appelles là, c'est une boîte vocale, tu peux laisser ton nom puis ton numéro de téléphone et peut-être qu'un fonctionnaire daignera te rappeler. Mais si c'est une urgence, si c'est quand ça concerne un mineur, on dit « appelle à DPJ ». Puis si c'est une urgence, on dit « appelle au 911 ». Ben, je pense que tout le monde est au courant de l'existence. Si tu connais le 1-833 dénonce, tu connais le 911 puis tu connais la DPJ. Fait que ça sert absolument à rien. Puis les gens, tu sais, qui. T'as vu, je vais changer la couleur parce que c'était lisible. Deborah Trent, qui est directrice générale du Centre pour les victimes d'agressions sexuelles de Montréal, dit que ce soit un jeune, un prof ou une personne agressée il y a 15 ans, quand elle prend le téléphone pour appeler, communiquer avec quelqu'un, c'est réfléchi. Tu veux avoir quelqu'un qui soit capable de te recevoir. Pas une machine anonyme dans laquelle tu laisses ton numéro de téléphone puis gna. Tu sais, ça sert absolument à rien. Puis ça fait quoi? Une semaine ou deux là, que c'est en que ce service, pas de service-là, est en fonction. Puis écoute, ça sert à rien. Là. Vous êtes mieux d'appeler au 911 ou à la DPJ.
La police.
Appelez la police, Colin. Sinon, ben, il existe une ligne, tu sais, qui est Info Aide Violence Sexuelle. Ça, c'est pas gouvernemental, si j'ai bien compris. Donc, ça fonctionne, puis il y a quelqu'un qui te répond, là, ça marche, là. Mm-hmm. Mais appeler n'importe où sauf là. Pour vrai, c'est de la marde. C'est une... on prend la chose au sérieux, on va créer une ligne d'aide, là, mais la ligne t'aide pas. C'est quand un ministre réagit en fonction des nouvelles, là, ben, il offre... Tu sais, Bernard Drainville n'a pas réagi au scandale sexuel puis au problème des inconduites sexuelles. Il a réagi au scandale dans les médias et ce qu'il offre comme solution, c'est une solution média. C'est des relations publiques, là. On a créé une ligne, 1-833 dénonce. Ça marche-tu? On a créé une ligne, on a agi.
Non, mais ce qu'il va dire, c'est que là, ben, on va laisser le temps aux choses de se placer. On vient de partir ça à l'instant, blablabla. T'sais, ça va être la cassette encore, là.
Ouais, mais moi, je vais faire une prédiction, là, c'est qu'ils vont fermer ça parce que ça sert à rien. Il existe déjà des lignes qui font ce travail-là 100 fois mieux. Sinon, ben, écoute, il y a la DPJ et le 911, des choses que tout le monde connaît mieux que 1-833-DENONCE. C'est vraiment de la boîte. Je pense que c'était juste pour satisfaire l'opinion publique. Ils savaient bien là qu'en faisant ça, en créant une ligne qui était juste une boîte vocale, même moi, je serais capable d'en faire une, là. Je me pogne une ligne. J'appelle une compagnie puis de genre Bell ou je sais pas quoi, puis je paye une ligne 1-888, 1-833, whatever, puis je fais un message de boîte vocale, puis hey, si vous êtes victime de quoi que ce soit, ben 911.
La ligne dénonce, Frank, en gros, c'est un peu comme t'appeler.
C'est ça. Laisse ton message dans l'espoir qu'il se passe quelque chose, puis s'il y a une urgence, 911.
C'est ça, exactement. Mais gars, c'est pas compliqué. Là. Moi, je m'a résumé ça en une phrase. Là. Plaster, c'est un bras cassé. C'est tout. Oh, oui. Plaster tient même pas.
En fait, j'irais plus loin que ça, mais j'aime ça ton image, fait que je vais la réutiliser. Je veux dire, on dessine un plaster sur un bras cassé, tu sais. Fait qu'il n'y a même pas rien de réel. Là, c'est vraiment de la boîte. Là. Pour vrai, là, c'est une opération de relations publiques pour répondre à une crise d'image publique du ministère de l'Éducation. Le vrai problème, là, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que le ministre s'en sac. On va le dire de même.
Frank, il y a quelqu'un qui... Je vais faire ça vite, là, parce qu'on ne consacrera pas la moitié du show à ça, mais Jerry Springer est décédé, 79 ans. Moi, je me suis intéressé dans les années 90 à Jerry Springer, le phénomène, pas à son show. Là. Évidemment, là, on sait toutes les péripéties que ça aura eu. Écoute, là, le fait qu'un moment donné, on a appris qu'il y avait là-dedans des acteurs, les bodyguards qui ont créé un spin-off du show, qui ont eu leur propre show. Pis,
Stephen Wilco.
Toute l'espèce de saga, sauf que, par contre, puis on en parlait tantôt hors micro, c'est indéniable que ce gars-là a eu un impact sur la télévision moderne. Ce serait fou, ce serait se mettre la tête dans le sable que de penser qu'il n'a pas eu un impact. Est-il positif, négatif? Ça, c'est votre décision à vous autres.
Moi, je m'apprenais ça, ça m'avait surpris que c'était si important que ça.
Ben, écoute, tu sais, on a appelé ça Crash TV, on a appelé ça, écoute, le tabloïd, tabloïd TV, sauf que ça a eu beaucoup d'influence sur un paquet d'affaires. Évidemment, on parle de télé-réalité qui s'en était pas, mais vous comprenez ce qu'on veut dire. On mettait des gens dans des situations un peu incongrues, invraisemblables. Un néo-nazi qui est en couple avec une juive, c'était absolument débile, là, tout ça. PM Sav, tu peux googler Jerry Springer si tu sais pas c'est qui, c'est pas plus grave que ça. Mais ce que la plupart des. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui connaissent pas son parcours, qui est quand même. C'est un gars qui a un parcours particulier. Parce qu'au départ, il est né en Angleterre en 1944 dans un abri qui protégeait les Juifs des nazis. Ça, c'est quand même particulier. Là. Il est né en temps de guerre. Bon, on s'entend là, qu'il n'y a probablement pas de grands souvenirs de ça. Là.
Mais c'est intéressant. Mais je savais qu'il était juif.
Ouais, mais au-delà de ça, il y a les deux citoyennetés. Mais au-delà de ça, ce que peu de gens savent pas, c'est qu'il a été il a été un conseiller de Robert F. Kennedy, père et non pas junior. Il a été impliqué beaucoup dans la politique à plusieurs niveaux. Il a été partenaire dans une firme de relations publiques. Il a été journaliste, là, un vrai journaliste là, dans différentes stations affiliées à fin des années 70, début 80, des stations affiliées de en Ohio, en fait, à Cincinnati principalement. Et c'est un peu plus tard après ça, qui a commencé sa carrière à la télévision puis son talk show, puis après ça que c'est devenu, écoute, carrément là, un shit show, là, j'ai envie de le dire de même. Mais les codes d'écoute étaient absolument gigantesques pour ce show-là. Après ça, il y a eu un autre, plus récemment, il y a même eu un Judge Show, ça s'appelait Judge Jerry. Écoute, il a été hôte aussi à America's Got Talent. Il a tenté plusieurs initiatives aussi dans le monde politique. Il me semble que c'était à la mairie de je sais pas si je me souviens plus si c'était Cincinnati ou Cleveland. Fait que, écoute, il avait 79 ans. Son décès causé par un cancer du pancréas. Et puis l'autre affaire, je vais le dire bien ben vite, là, parce que le monde qui me connaisse et qui me suivent savent que je suis un peu un freak de lutte. Ben, une des époques les plus prolifiques de la WWF à l'époque, c'est les années 90. On appelait ça l'Attitude Era. Les scripteurs du show, c'était deux gars. Un gars qui s'appelle Vince Russo et l'autre Ed Ferrara. Leur inspiration directe, c'était Jerry Springer. Là. Quand il écrivait le show, il y avait Jerry Springer à la télévision. Là. Puis c'est de ça qu'ils se sont inspirés pour, un, les storylines. Deux, le style visuel. Tu sais, quand ils créaient le pacing du show, ils ont complètement transformé ça pour que ça roule de même. Là. Après la pause, il y a une autre personne qui va venir. Crash TV.
Surprise, puis c'est ça. Ouais, puis on va se battre avec.
Exactement. Puis... Fait que ça... Si on peut penser, puis il y a du monde qui, ben, dans le cas de la WWF, là, c'est documenté, là, c'est exactement ça, là. Vince Russo, Ed Ferrara s'en allaient chez Vince Russo à tous les jours. Eux autres, il y avait à peu près 5-6 heures de TV à écrire, puis ils flippaient Jerry Springer, puis ils regardaient les sujets qui étaient abordés, le traitement qu'ils donnaient à ça, puis ils s'inspiraient directement de ça pour mettre des lutteurs et scripter des histoires, des storylines basées sur ce qu'ils voyaient dans Jerry Springer. Carrément, point final. Fait que c'est ça. Fait que, puis s'en est suivi, évidemment, Tu sais, là, une des grandes révolutions des communications, je vais dire nord-américaines, mais on pourrait probablement dire mondiales, ça a été les chaînes câblées. Tu sais, avant ça, là, t'avais les grands réseaux, NBC, CBS, aux États-Unis, puis tout ça. Quand ils ont commencé à passer des fils pour que le monde ait les chaînes câblées à la maison, ça a révolutionné la télévision. Tu sais, t'as eu des USA Network, t'as eu des Turner Broadcasting System.
Tu passais 5 postes à 1000,
littéralement. Puis là, ben, t'avais des conglomérats aussi qui avaient plusieurs chaînes. Fait que là, ben, ce que ça a fait que tu pouvais, je sais pas, c'est fédérer ou en tout cas la syndication, on va le dire en franglais. Faisait en sorte que ben tu pouvais être exposé plus d'une fois, dépendamment des chaînes câblées auxquelles
tu
étais abonné,
des réseaux dans lesquels tu faisais de la convergence.
Des réseaux dans les réseaux, exactement. Fait que c'est de dire que ce gars-là ne peut pas... Puis oui, il a commis des erreurs aussi, là, J.F. King en fait état. Là. Il a été accusé d'essayer de requérir au service d'une prostituée, genre avec un chèque, là, on se rappelle. Là, ça avait fait... Pas on se rappelle, mais ça avait fait... Ouais.
Mais tu payes en or, c'est pas de
Fait que de dire que ce gars-là n'a pas eu une influence sur la suite des choses quant au contenu télévisuel auquel on a été exposé, c'est faux. Okay? Est-ce que ça a été important? Est-ce que ça a été une avancée? Je pense pas, mais le résultat, il est là pareil. Parce que, écoute, à l'époque où la WWF a décidé de s'enligner vers ça, là, Crash TV, Attitude Era, des thèmes très adultes, des thèmes très confrontants.
Scandale, puis ouais.
De l'adultère. T'sais. Avant ça, là, les personnages à la lutte, c'était des clowns. Là. Puis là, après ça, on parle d'adultère, puis on parle de fourberie, puis tout. En gros, la lutte est comme un peu devenue Jerry Springer, puis ça l'a sauvé, littéralement, là, parce que ça allait vraiment pas bien pour la WWF.
Ah, c'est clair
époque-là.
Que ça a généré de l'argent fou. Puis tu sais, à la TV, il y a eu tellement d'imitations. Comme tu disais, il y a eu les spin-offs. Là, je me rappelle de Stephen Wilco, qui était un des gars de sécurité qui empêchait les invités de se battre, là, genre le gars du Ku Klux Klan, avec l'afro-américain du Ku Klux Klan là, avec, contre la nazie lesbienne en chaise roulante. Là, j'ai sûr que je caricaturise. Mais tu sais, quand il en venait au coup dans ses histoires-là, puis lui, bon, c'était des gars de sécurité, tout ça, mais il a fait son propre show où, tu sais, finalement, il reçoit le même genre de trou de cul que Jerry Springer, mais il lui parle d'en face, puis il menace de le péter à la gueule live en onde, puis il pitche des chaises dans le décor.
Il y a quelque chose de vraiment capoté qui est après se passer, puis moi, j'aime ça, là, c'est le genre d'affaires que je remarque. Tu sais, dans le chat en ce moment, là, t'as une chronique touristique sur les destinations prisées de restaurants au Saguenay-Lac-Saint-Jean pis dans le bas du fleuve.
Malade.
Mélange entrecoupé avec Jerry Springer veut requérir au service du prostitué.
Ben moi, j'ai...
Ouais, mais le homard, il est bien bon à Sainte-Flavie.
Ah,
ouais,
il a
essayé de se payer une prostituée avec un chèque. C'était à boire, c'est donc bien...
J'adore ça, des conversations croisées. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose justement dans le chat qui m'a rappelé ce merveilleux souvenir quand on s'est mis à vendre des cassettes ou à les louer dans des clubs vidéo. Des émissions de Jerry Springer traduites en québécois ou ben faites par des Ontariens souvent, là, tu sais, puis pour pas cher, ou des Québécois amateurs, très amateurs. Puis pendant que tu parlais, j'ai pris la peine d'aller chercher un petit extrait de la version traduite, puis je te dis, on va écouter juste le sonore, là. C'est assez minable et tordant à la fois. Ça dure 23 secondes, brace yourself, puis je pense ça. C'est assez ridicule.
La petite salope, tu veux pas de la merde.
Qu'est-ce que t'as dit?
Tu savais pas ça.
Tu veux voir une salope? Tu veux en voir une salope? Tu veux voir une vraie salope?
On l'entend pas bien.
Oui, viens chercher, je vais te montrer c'est quoi une vraie salope, mon esti.
C'est juste
une petite patelette. Mon crisse de chien sale de tabarnak.
Tu fais dur.
Quoi? Tu
trouves
que je fais
dire?
Ben, je vais te dire.
Non, tu l'entends pas.
Ça passe pas bien.
Je vais t'envoyer le lien, tout simplement.
Ça fait. Non, mais quand même, tu m'envoies le lien.
Ben, si tu le fais jouer juste dans ton browser, on devrait l'entendre.
Ouais, vas-y, envoie-moi ça. Parce que là, c'est.
Non, c'est ça. Ben, ça, c'est la magie de l'Internet avec Zoom. Mais je t'avais envoyé.
On va le faire. OK, parfait.
Fait qu'écoutez bien l'audio de ça. La qualité de l'acting, puis je soupçonne la voix de femme d'être interprétée par un homme qui parle comme ça.
OK, on va essayer ça. Là.
La petite salope, tu veux pas de la merde.
Qu'est-ce que t'as dit?
Ça va pas ça.
Tu veux voir une une salope, tu m'en veux prendre une salope, tu veux prendre une vraie salope.
C'est quoi une vraie salope?
Oh, ouais, viens, viens chercher, je vais te montrer c'est quoi une vraie salope, mon esti. Mon écœurette. Mon crisse de chien sale de tabarnak.
Sois dur.
C'est bien épais.
Tu trouves que je fais dur? Ben, je vais te dire, je fais pas si dur que ça. Je fais pas si dur que ça, les gars, hein?
Wow! C'est la grande qualité. La grande qualité. Puis là, ben, t'avais, tu sais, évidemment, là, t'avais les bodyguards qui embarquaient sur stage. Et là, t'avais l'espèce de figure de sagesse, hein, de Jerry Springer. OK, OK, tout le monde, là. Okay, on voit ça, on voit ça. On voit. Ouais, ouais, puis les DJ qui disent c'est pas le pire extrait. Non, non, non. Je m'en doute bien. Mais
c'était le plus pratique parce qu'il est pas long. Là. Je ne tentais pas qu'on écoute avec browser un show d'une demi-heure pour trouver un bout, mais ça ressemble tout à ça.
mais fait que, tu sais, puis de dire que c'est de la télé-réalité, ben. Oui et non, parce que tu sais, c'est pré-télé-réalité, mais au sens où nous, on l'entend maintenant, le Love Story, Big Brother, tout ça. Mais si vous voulez connaître un peu plus l'histoire de la télé-réalité, ben il faut absolument que vous alliez visiter un gars qui s'appelle John DeMol. John espace D-E espace M-O-L, qui a fondé une compagnie qui s'appelle Endemol, et qui est l'originateur, le père d'à peu près tous les concepts de shows de télé-réalité. Le gars, il a littéralement, on peut presque le qualifier d'inventeur de la télé-réalité. Et sa fortune s'élève à 1,8 milliard.
Oui, ça, puis toutes les télé-réalités sont plus ou moins... stagé, il y a un scénario, puis on s'arrange pour que les invités réagissent de telle façon, puis on, tu sais, que ce soit les occupations double story, ou ben l'amour est dans le pré, ou un fermier essaie des femmes, puis ou ben célibataire et nul, ou ce que du monde tout nu, tu sais, c'est tout stagé de A à Z. C'est sûr que les participants, eux autres, tu sais, je peux pas dire que c'est tous des acteurs, là, au contraire, mais tu sais, ce qui se passe, c'est tout en fonction qu'il y a une espèce de trame narrative qu'on suit pour, tu sais, c'est juste plate, là. Ça serait juste plate de regarder du monde dans la vraie vie, là. Même des shows comme The Osborne, là, c'est sûr que c'est pas juste, tu sais, leur vie de tous les jours, là, tu sais. Mais bon, c'est un produit qui a marché énormément, qui marche encore, la télé-réalité. Puis ça risque toujours de marcher un peu parce que on est tous un peu voyeurs. Puis moi j'écoutais ça là, tu sais, Jerry Springer, je trouvais ça drôle.
Tu vois, là, les gens drop des noms là, regarde, il y a eu The Mole, il y a eu Survivor qui sont des productions / concept de John The Mole, mais c'est même pas proche là, c'est Deal or No Deal. C'est lui, c'était quoi déjà l'autre c'est pas que je veux le nommer. Écoute, la liste de Voice, la liste est faramineuse. Là, t'sais. Si j'irais jusqu'à dire qu'il est fort probable que ça doit être 80% de tout ce que vous regardez comme reality show, là, il y a eu son mot à dire dedans. Là. Mais là, Frank, j'ai des tweets de tweets, il faut qu'on en brille.
Oui, parce qu'on a le temps d'y faire. Go.
Ouais, c'est ça. Fait que, garde, on va. Allons-y. Écoute. Allez lire John DeMol, si vous voulez, vous allez en apprendre plus un peu sa réalité, sa télé-réalité, puis probablement découvrir qu'il y a des shows que ça vient de lui sans le savoir. Écoute, que seraient les tweets de tweets sans, bien sûr, notre cher du national, le du magogue en chef? Moi, là, ça m'a toujours fasciné le monde qui s'auto-retweet. C'est moi, ça, je trouve ça. Puis là, ben, écoute, il call out Bernard Drinville. Faut
c'est
savoir
comme un miroir, mais... c'est comme embrasser un miroir.
Il faut savoir que Éric Duhaime et Bernard Drinville, tu sais, ils ont été collaborateurs, tout ça. Tu sais, ils se connaissent personnellement. Là, ils ont une relation, ou il y en avait une, en tout cas, à tout le moins. Puis là, ben, écoute, il call out pour la deuxième fois parce qu'il s'auto-retweet Bernard Drinville. Bernard Drinville, en fait, lorsqu'il y a eu, on s'en rappelle, hein, il y a eu ses pleurs qui ont fait le tour de la planète, littéralement. Et puis là, ben, il s'est ressaisi. Puis là, il a dit, ben là, s'il est pour avoir un tunnel transport en commun, il faut qu'il soit en construction. En 2026. Ça, c'est vrai qu'il a dit ça. Alors, Éric Duhaime le call-out, puis il dit « Es-tu prêt, Bernard, à mettre ton siège en jeu là-dessus aussi? Ha, ha, ha. » Moi, j'ai une question pour Éric Duhaime. Toi, mon Dudu, qu'est-ce que t'as à mettre en jeu? T'as quoi, toi, à mettre en jeu? Qu'est-ce que t'as dans la balance? Est-ce que tu serais prêt à mettre en jeu tes pétitions? Est-ce que tu serais prêt à mettre en jeu ta roulotte d'Ekemore dans le parking de l'Assemblée nationale parce que tu peux pas y aller? Tu sais, c'est facile de caller out un peu tout le monde si t'as pas de bille dans la partie, là. Parce que c'est littéralement ça, là, Éric, là. Écoute, là, sa petite opération, là, Lovin, là, tu sais, d'aller devant chez Éric Kerr, puis tout. Puis en passant, pour moi, Éric Kerr, c'est un maillet, là. Puis ça fait longtemps que c'est un maillet. C'est pas, quand je dis ça, c'est pas de défendre Éric Kerr dans ce dossier-là, pantoute. Je signerai pas à pétition juste parce que c'est du UM qui est derrière. Puis de toute façon, je réside pas là. Et ça me fait penser à un autre beau maillet, un autre bel exemple de mailletterie. C'est du monde qui font des lives. Je pense à Carl Le Chou, Gibrevoix, là, qui libre choix, machin, qui suggère aux gens qui habitent même pas dans la circonscription de voter pour la démission d'Éric Kerr. Mais non, ta gueule, qu'est-ce que t'as à voir là-dedans, toi, Ticlin? Fait que je continue ça, mon cher. Hey, écoute.
Ben, attends, je me pose juste une question comme ça sur Bernard Drainville. Je me demande s'il a pleuré autant pour les victimes d'actes sexuels dans le ministère de l'Éducation que pour le troisième lien d'autobus.
Demain. Un autre affaire qui me fait halluciner, c'est l'espèce d'impression que Caroline Lessard nous donne toujours qu'elle a une relation privilégiée avec Elon Musk. Le nombre de fois que cette femme-là a tag Elon Musk est faramineux. C'est absolument fantastique. Je commence à penser que cela serait une bonne idée d'envoyer une lettre d'avocat à Twitter aux États-Unis pour savoir ce qui se passe avec mon compte originel, pourquoi il a été censuré, puis a tag Elon Musk. J'ai recensé environ 130 variants sur Facebook, Blue Check, Mark, Badge, Détenteur de la Vérité, machin, puis le kit. Je vois pas ce que ça vient. Mais Caroline... Elon Musk se contre-calisse de toi.
Puis il comprend pas le français.
Ah, ça, je sais pas, par exemple.
C'est pas impossible qu'il y ait des notions, mais je pense pas qu'il va aller lire des tweets d'une madame un peu folle dans le fin fond de la bouche.
Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord.
C'est drôle, par exemple. D'ailleurs, c'est sur la photo, c'est pas le polo jaune d'Alexis.
Ben oui, mais c'est un montage.
Oui, je sais, mais je veux dire, elle a-tu scrappé une photo avec son précieux Alexis pour mettre Elon?
Non, c'est moi, ça, c'est moi.
Ah, OK, c'est toi que je pensais que c'est elle qui se montrait.
Non, c'est la photo d'Alexis avec la face d'Elon Musk, c'est ma spécialité.
J'aurais trouvé ça drôle qu'elle ait fait ce montage elle-même, mais tu sais, là, j'ai un moment de lucidité, là, elle n'est pas capable de faire des montages. Là-même.
Ben, en tout cas, ça prouve qu'elle est bien faite, merci.
Elle est bien faite. Ben là, je savais que c'était pas...
Écoute, que serait une annonce relative au milieu culturel sans que nous ayons bien sûr droit aux élucubrations de cette chère Amélie Poul, qui ne sera jamais honorée à l'Assemblée nationale. Mais l'affaire qui arrive, c'est que les cow-boys fringants, eux autres, ils vont light. Et là, ben écoute, hein, puis là, tout ça, ça provient d'un retweet, hein, parce que là, ben les cowboys fringants sont, c'est annoncé hier, ça. Soudainement, les cowboys fringants sont des vendus, des collabos, des insert diminutifs, là. Les cowboys fringants ont changé les paroles de Amberne. C'est bien le Québec des collabos et moi, je lève mon petit drapeau pendant que je liche l'arrêt à Legault, même à Trudeau. Elle est capable de faire des rimes aussi, quand même.
Ouais, mais je suis pas sûr que ça fit des temps de la toune, hein, Amélie.
Non, mais c'est ça, tu sais, t'as-tu déjà écouté du Amélie Poul?
J'ai déjà subi du Amélie Poul, mais qu'à cela ne tienne, parce que Tristan Bavaria, l'excrément de Donald Trump, a dit qu'elle allait recevoir une médaille de toute façon un jour, là, tu sais, quand une fois que tous les méchants nazis qui nous dirigent au Québec seront en prison, ben écoute, Mel Goyer puis Amélie Poul puis tout ça, ça va tout avoir des médailles, ça, comme il dit lui-même.
Ouais, il y en a dit des affaires.
Oui, il y en a dit
3-4 affaires. C'est pas mal ça, son métier, de dire des affaires.
Ouais. Mais j'imagine qu'elle va attendre sa médaille, c'est plus hot.
Qu'est-ce qui fait de bon, notre cheveu de prince? Ben, il retweet du Robert F. Kennedy Jr.
Oui.
Écoute, parce que ils sont bien tranquilles, hein? Même la juge journaliste, là, elle a fait des petits tweets là, dans lesquels elle se pose des questions sur le sténographe de l'audience de Patrick Provost, mais ce sera pour un autre
moment. Non, Blake, autre moment. Ces temps-ci, là.
Fait que, en fait, c'est Robert Kennedy, je vais vous traduire ça sur la mouche, là. C'est Robert Kennedy qui parle évidemment du congédiement de Tucker Carlson. Ce sont ses mots à lui, là, évidemment, on en a parlé à satiété, là. Après, Tucker Carlson est remercié par Fox 5 jours après que après qu'il ait mentionné, ou en tout cas confirmé plutôt, que les réseaux de télévision ont fait la promotion d'un vaccin meurtrier et non efficient ou pas efficace pour faire plaisir à leur publicitaire de Big Pharma. D'un courage à couper le souffle, le 19 avril, son monologue a brisé deux des plus grandes des règles de la télévision. Il a dit la vérité à propos de Big Pharma et du fait qu'il achetait de la pub à TV, donc il contrôlait les stations de télévision où il en plaçait. Et bon, oui, le genre, là. Pour plusieurs années, Tucker a eu les plus grosses audiences avec 3,5 millions de personnes. C'est 10 fois ce que CNN obtient. Fait que regarde, tu es de la grosse sauce, puis que Blais partage. Puis rappelons que Robert F. Kennedy Jr. a pitché son chapeau dans la danse officiellement pour briguer la présidence des États-Unis sous les drapeaux démocrates. Fait que enfin, les démocrates ont leur conspi. Et là, on peut avancer.
Là, on a un fou de chaque bord. Fait que, tu sais, les États-Unis peuvent continuer leur descente et leur... leur ascension vers le déclin, là. Tu sais, c'est le déclin de l'Empire américain. On dirait que ça va s'effondrer pareil comme Rome, tellement que là, c'est rendu n'importe quoi. Puis, mais écoute, ce pays-là n'a pas fini de nous surprendre. Ils peuvent aussi élire quelqu'un qui a de l'allure. Ils l'ont quand même fait la dernière fois, après avoir élu le pire politicien que j'ai jamais vu en Amérique du Nord. Ils sont quand même revenus un peu à la raison. Mais j'ai l'impression que c'est un peu par dépit. Ça va être spécial, cette course-là, la prochaine présidente. Les courses à l'investiture vont être spéciales et la course à la présidence va être surréaliste, c'est certain, avec des DeSantis ou Trump contre Biden ou... pense pas que Kennedy... Quoi que des fois, hein, juste le nom, là, t'as le monde... Oh, Kennedy! Il y a bien du monde qui vote pas avec leur tête, mais ils votent avec leur cœur. Et certains, comme une de mes défuntes tantes, votent pour celui qu'elle trouve le plus beau.
Est-ce que... Il y a une fonction que j'aime beaucoup sur Twitter, c'est la fonction mépris. C'est vraiment le fun. Moi, je m'en sers souvent, la fonction mépris. C'est vraiment trippant. Écoute, c'est notre cher Sam Bourrette qui est vraiment outré, n'est-ce pas? Parce que, écoute, c'est pas correct, là. Mais Guy Nantel, il l'a bloqué sur Twitter. T'sais, fait que là, c'est impressionnant. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Mais, comme j'apporte des arguments, ça, c'est pas le fun. Arrêtez d'encourager ces bien-pensants croyant qu'ils ne nous méprisent pas, car c'est du mépris. Ben moi, la fonction mépris sur Twitter, j'aime vraiment ça beaucoup. Et là, évidemment, tu te doutes bien, Frank, que ce que ça a donné comme résultat, ça a été que j'ai reçu des centaines, comme toi, Godette, mais j'ai reçu des dizaines de capture d'écran démontrant que Samuel Grenier lui-même méprise beaucoup parce qu'il en bloque en tabaslac du monde. Et il y en a même, il bloque même parfois des gens qui me rapportent qu'ils ne lui ont jamais adressé la parole. Mais qui like peut-être quelque chose comme, je sais pas, du ménage dimanche ou dans le temps, ou tu sais, peu importe.
Samuel veut juste des licheux qu'il met en valeur, tu sais. Je suis pas sûr, là, mais je suis pas sûr que Guy Nantel pleure des larmes de sang là, après avoir été bloqué. Après avoir bloqué Samuel. Je pense pas qu'il a fait ça dans un. Oh là, je suis plus capable de Samuel là, parce qu'il me donne des bons arguments puis des faits. Puis là, je suis tout mêlé, je le bloque. Je pense pas que ça soit passé comme ça. Ben, je pense pas que c'est la valeur de tes arguments, Samuel, qui fait que t'as été bloqué. C'est sûrement juste parce que t'es un nasty de conspi fatigant avec des théories pas d'allure. Puis à un moment donné, là, on stand de ça.
Samuel, Guy Nantel se calisse de toi. Mm-hmm. Fait que ça, ben, va-t'en que ça.
Pour te mépriser, il doit te mépriser. Ça se peut.
Frank, ça va être la première fois ever que nous allons avoir quelque chose en vidéo dans les tweets de Twitter parce que, écoute, ça dure 1 minute 55, mais je vous garantis que ça vaut la peine. C'est les Illuminés du Québec qui ont partagé ça. Évidemment, vous vous souviendrez hein, de cette fameuse crise d'apoplexie que Alexis Cossette-Trudel a eue relativement à tout le phénomène là, de la lecture de contes des drag queens et ainsi de suite. Puis là, ben écoute, hein, en tant que fin limier. Il a creusé, n'est-ce pas, dans les annales, sans mauvais jeu de mots, pour aller trouver des squelettes dans le placard de certaines drag queens de proéminentes du monde québécois. Et ça a donné ce montage absolument magique. Salutations d'ailleurs à nos amis, bien sûr, des Illuminés du Québec. Alors, 1 minute 55 avant qu'on revienne pour le close. C'est savoureux.
Ben, regardez, d'accord, Martin.
Les marathons de masturbation, les orgies de masturbation, voyeurisme exhibitionniste, les orgies de masturbation en public, là, devant les gens, pour les voyeurs et pour des exhibitionnistes, avec des prix pour la nymphomane qui crie le plus fort et puis pour le taureau qui tire le plus loin, là. Un torrent, on n'allait pas laisser passer cette histoire d'orgie exhibitionniste, voyeuriste, des orgies de masturbation il y a quelques années, en public, là, tu sais, genre tout le monde ensemble, là. Masturbation, d'orgie de masturbation. C'est pas juste que t'as un groupe de masturbateurs, là, de gens qui s'exhibent. C'est des exhibitionnistes, puis il y a des voyeurs, crosseurs, crosseuses, voyeurs, voyeuses. C'est comme... C'est pas juste de la masturbation, c'est du voyeurisme et de l'exhibitionnisme. OK? Crosseur, c'est au Québec, ça veut dire se masturber, là. Une espèce de donjon, là. Un donjon de masturbation pour les voyeurs. Masturbation... masturbation publique, les masturber devant les gens. T'as des catégories de masturbation... Faites sortir la nouvelle que le gouvernement du Québec encourage un artiste qui a fait la promotion de la d'orgie de masturbation. Orgie de masturbation, d'exhibitionnisme et de voyeurisme dépravé. OK? Chacun sa moralité, là. Dépravé. Masturbatrice, masturbateur, des orgies échangistes, des orgies de masturbation, un donjon de masturbation, être masturbé devant les gens.
Du Québec, on pense avoir une réflexion de fond qui est solide et qui s'argumente.
J'allais proposer de faire le close et de terminer là-dessus parce que j'ai vu, on m'a envoyé cette vidéo-là, je savais qu'on pourrait jamais topper ça, mais qu'on va quand même faire un petit close puis on va vous rappeler que pour accéder à plus de contenu, vous le voyez en bas de l'écran en ce moment, patreon.com/crachoir. D'ailleurs, on ça donne droit notamment aux épisodes du Deep State, puis on en a enregistré tout un hier. Pour vrai, là, c'était de loin, le Deep State le plus épique qu'on a jamais fait, là.
On peut teaser un petit peu là quand même, ouais. Là, sans évidemment, parce que c'est pour le bénéfice des gens qui adhèrent au Deep State, là, mais je vais juste vous dire ça en une phrase. On a creusé le dossier du tribunal militaire sous toutes ses coutures. Voilà.
On a enquêté avec... ouais, c'est ça. Ceux qui aiment beaucoup qu'on parle de la garde nationale, là, vous allez vraiment triper sur cet épisode-là. Là. C'est au-delà de tout ce qu'on a déjà fait concernant la garde nationale, les milices militaires et compagnie. Là. Fait que je vous le dis, ne serait-ce que pour cet épisode-là, ça vaut la peine de l'abonnement. Fait que allez là-dessus. Sinon, ben suivez-nous sur Touski. Puis là, c'est le dernier express de la semaine, c'est-à-dire qu'on se reparle dimanche 19h30 pour le crachoir suivi de l'after show qui est votre show que vous avez dont vous avez pris le contrôle au premier épisode je crois et on poursuit dans cette veine là. Oui Martin.
Ben je veux juste ajouter quelque chose là, tu sais, je vous le dis tout de suite là, traitez-moi de mercantile, de capitaliste, OK. Les épisodes du Deep State là, mettons vous vous dites ouais, moi je les aime puis tout là, mais je vais attendre que ça devienne public. Ils ne deviendront jamais publics. Fait que je veux juste vous le dire, là, c'est une des expériences de self-control les plus hallucinantes que j'ai jamais moins vécues de ma vie. OK? C'est rare là, que je vais dire ça, mais celle-là, là,
ça m'a demandé garder toutes mes sérieux. Ressources. Oui, parce que moi, j'avais l'opportunité de fermer mon micro, ce que j'ai fait, et j'ai explosé de rire à plusieurs reprises, notamment après une certaine phrase prononcée par Martin.
Ah, non, Oui, OK.
Vous me paraissez quelqu'un de sensé. En tout cas, il y a 88 de ces épisodes-là qui sont disponibles, ainsi que plein d'autres contenus. Puis ça donne évidemment des privilèges d'être dans le Patreon, notamment l'accès à notre page privée. Puis une communauté vraiment incroyable avec pas mal de contenus. Puis c'est ça, ça vaut la peine. OK, fait qu'on va se quitter là-dessus, puis je fais juste y penser, puis j'ai goût de rire, puis j'ai goût d'en dire trop, fait qu'on va se quitter maintenant. Mais c'est une belle exclusivité. Salut tout le monde.
Membre de la famille H2O Web Media.